Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Le nouveau témoignage de Thierry Beccaro, témoignage bouleversant pour lui qui se mobilise pour les enfants victimes de violences.
Mohamed, votre story du jour.
Le parcours d'un jeune homme surdoué et préparé pour les plus grandes écoles de commerce qui bascule dans le terrorisme. Je vous raconte cette histoire ce soir.
Mathieu, dans le 5 sur 5.
8 morts et plus de 300 blessés, tous des jeunes dans un festival de musique aux États-Unis. Un rappeur mis en accusation. Je vous raconte cette histoire.
Patrick, votre édito du jour.
Comment Poutine tente de briser son principal opposant, Navalny, au fond de sa prison.
Et Pierre qui fait son grand retour ce soir. Je ne sais pas si on vous a manqué, mais vous nous avez cruellement manqué. Cher Pierre, bienvenue à la maison.
Et moi, aux États-Unis, c'est la langue française qui me manquait. Donc nous la célébrons ce soir après le prix Goncourt, brillamment remis à un brillant auteur sénégalais. On aura ce soir le champion du monde de Scrabble qui est camerounais.
Bravo. Et notre invité est fan de Scrabble. Olivier Giroud qui bat N'Golo Kanté au Scrabble, c'est sa grande fierté. Olivier Giroud, champion du monde, vice-champion d'Europe, pas sélectionné pour un match crucial à venir face au Kazakhstan dans les éliminatoires pour 2022. Il sera sur notre plateau, il expliquera quelles sont ses relations avec le sélectionneur Didier Deschamps et puis surtout il se confie dans une autobiographie. On est ravis de l'accueillir ce soir, il sera aux côtés de Gad Elmaleh et tous les deux sont nos invités du dîner. Un dîner préparé ce soir par Emmanuel Leblay, chef de la Piquicouette à Nîmes. Qu'est-ce que c'est qu'une Piquicouette, Emmanuel ?
C'est une pique qui fait bien à manger, qui boit bien et qui s'amuse au comptoir avec ses convives et voilà.
Et quand elle est heureuse, elle couette.
Voilà, exactement.
On va couetter ensemble avec vous ce soir.
Je pense, ouais.
Autour de quoi ce soir ?
C'est brandade de morue avec condiments citron bio et écume d'huile d'olive.
Et ça fait couetter la pie. Je vous prie de bien vouloir et le croire. Ce qui nous fait couetter, nous, c'est l'édito de Patrick Cohen et c'est tous les soirs en début d'émission. Dans votre édito, Patrick, la façon dont Vladimir Poutine tente de détruire son opposant numéro 1, Alexei Navalny.
Oui, le détruire, c'est le mot juste, après l'avoir réprimé, empoisonné, emprisonné. Navalny, à qui le Parlement européen vient d'attribuer le prestigieux prix Sakharov pour la liberté de pensée. Andrei Sakharov a été l'un des plus célèbres dissidents soviétiques, prix Nobel de la paix. L'URSS n'est plus, mais les horreurs que subit Navalny n'ont rien à envier à celles que le régime communiste faisait subir à ses opposants.
Que sait-on de ses conditions de détention ?
Navalny a été emprisonné en février dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité à Pokrov, à une centaine de kilomètres de Moscou. Il a déjà pu témoigner cet été dans le New York Times de la violence psychologique subie au quotidien, mais les récits d'anciens détenus recueillis par l'un des derniers médias russes indépendants, Dojd, dans une enquête relayée par le correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkin, sont terribles, effroyables. Ils racontent un camp de concentration et une prison dans la prison, spécialement pour Navalny, un système mis en place pour le briser, l'humilier, le persécuter, le dénuder en permanence, le priver de soins et l'empêcher de dormir. C'est la principale torture d'ailleurs qui lui est infligée, c'est classique, les réveils incessants par des codétenus missionnés pour le harceler.
Nous ne lui avons pas donné. Он лег специально, опять подготовились под него. Привезли таких людей, которые для него ничего святого нет. Угловой он был. Его рядом с ним положили, а нельзя рядом с угловым. Тот спать хочет, тот на нервах им играет, разные звуки издавать. Потом начал, блин, анонизмом заниматься. Он аж ногой вот так вот говорит, вы что, говорит, вообще, говорит, что ли, офигели, блин? Вы что делаете, блин? Подойти просто и обоссать его. Он спит, ты его и обоссал, блин, и ушел. А камеры же тоже есть, блин. Потом на эту камеру сказали, блин, Навального в этом в Покрове обоссали.
Oui, parce qu'il y a des caméras partout et le contrôle est permanent. Des détenus qui ont interdiction absolue de lui adresser la parole, pas le moindre mot, mais un harcèlement permanent jusque dans les toilettes.
туалет.
А там по-любому один из этих угловых находится постоянно.
У туалета?
В туалете. Ты сидишь, он стоит. Ногой вот так, если даже сделаешь, он не уйдет. Потом тебя убьют, блин, за это. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой вот так, на коленях, и вот так вот. Один метр расстояния.
Pas de violence physique, mais un environnement, des petites et grandes cruautés pour le faire craquer pendant sa grève de la faim de 24 jours. On faisait cuire de la nourriture à côté de lui.
Navalny est emprisonné pour 2 ans et demi encore.
Oui, mais qui peut imaginer que le régime de Poutine le laisse sortir en 2023 autrement que transformé en légumes. D'ailleurs, Moscou vient de lancer de nouvelles accusations contre lui pour extrémisme et incitation à des actions terroristes. Une série de charges passibles en tout de 23 ans de prison. Message de Navalny il y a un mois, ne vous inquiétez pas, je serai dehors au plus tard en 2051. Chapeau. En attendant, le Kremlin ne tolère plus aucune critique. La liste s'allonge chaque semaine des journalistes ou militants classés comme agents de l'étranger. L'ONG russe Memorial comptabilise maintenant 420 prisonniers politiques en Russie, un chiffre proche des répressions de l'époque soviétique.
Merci Patrick pour cet édito du jour. 6h30 ce matin, un homme a attaqué à l'arme blanche un équipage de police devant le commissariat central de Cannes. L'agresseur a été mis hors d'état de nuire. Aucun policier n'a été blessé. La piste terroriste est envisagée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place dans la matinée.
Je voudrais d'abord soutenir les policiers nationaux, l'ensemble des forces de sécurité du pays. Et je pense ici à Cannes, monsieur le maire, à la police municipale. D'abord pour la réaction très importante qu'ils ont eue de sang-froid et de grand professionnalisme, et soutenir tous les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux qui sont souvent, très souvent, la cible, bien sûr, d'attaques. Je pense aujourd'hui que nous pouvons souffler un ouf de soulagement lorsqu'on voit que ces policiers, certes très touchés psychologiquement, ne sont pas blessés physiquement, notamment grâce à leurs équipements et grâce à leurs gilets pare-balles.
Bonsoir David Lebars.
Bonsoir.
Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, merci de votre présence ce soir. On est passé tout près d'une tragédie.
Tout près d'une tragédie parce que le matin à 6h30, quand un équipage de police va effectuer une mission ordinaire de police, je ne suis pas certain qu'on imagine à quel point on s'attend à être attaqué au couteau par un individu qui fait le guet et qui est là pour s'en prendre à des policiers.
Il y avait clairement une volonté de tuer.
Bah oui, vous le savez, aujourd'hui, il y a des images qui circulent. Je crois qu'on les a tous un petit peu vues. Quand un individu se dirige avec un couteau sur un véhicule de police à 6h30 du matin, ouvre une portière et s'en prend directement à un policier, je crois que l'intention est claire et que ça ne va pas faire beaucoup débat. Et ce qui est extrêmement remarquable, c'est la réaction de ces policiers qui arrivent à la fois à se protéger eux-mêmes, ils s'en sortent, et en même temps à neutraliser l'agresseur. Il faut saluer ce sang-froid. Il ne faut pas imaginer que tout ça ne laisse pas de traces, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas blessé physiquement qu'il n'y a pas des grosses blessures psychologiques. Et puis, ils ne sont pas passés loin non plus. Hein. Il a frappé dans le gilet pare-balles, il aurait pu frapper à la gorge.
Oui, ça lui a sauvé la vie d'avoir un gilet pare-balles et d'être.
Cette fois-ci, oui.
Et que le coup soit porté à la poitrine.
Cette fois-ci, oui.
L'agresseur, âgé de 37 ans, serait donc algérien. Il aurait dit agir au nom du prophète. Ça, c'est des sources policières citées par l'AFP. Vous confirmez ces informations?
Je peux juste dire que j'ai aussi des sources, mais ce sera au procureur de s'exprimer sur cette affaire, mais j'ai des sources du même acabit, avec des propos qui laissent à penser qu'effectivement il y a des allusions au prophète, ou en tout cas à la religion qu'il prétend invoquer pour commettre son acte, mais tout ça sera déterminé par l'enquête.
Titulaire d'un titre de séjour obtenu en Italie, il serait entré en Europe en 2009 avant de s'installer en France en 2016, inconnu de la justice et des services de renseignement. C'est aussi cela, la menace de ces individus. Ils sont quasi impossibles à repérer. C'est ce que redoutent le plus les fonctionnaires de police.
Il n'y a pas pire. C'est ce qu'on peut désigner comme étant le terrorisme low cost. Et en même temps, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Hein. Je ne voudrais pas rappeler un événement tragique, mais l'auteur de ce meurtre de masse à Nice agit tout seul avec un camion et fait pas loin de 100 morts. Et un terroriste low cost peut faire énormément de dégâts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il ne faut pas reprocher aux services de renseignement que cet individu ne soit pas connu, parce qu'on aura d'autres personnes comme ça qui sortiront de nulle part à n'importe quel moment. Malheureusement, ça fait partie de ce risque, on le connaît.
Une crainte qui est devenue quotidienne maintenant ?
En tout cas, régulière. Si on remonte sur les 2 ou 3 dernières années, sur le nombre d'attaques qu'il y a pu y avoir sur des policiers, parce qu'ils sont policiers, ces attaques-là se répètent et on sait qu'on incarne l'État. Et en incarnant l'État, on incarne ce qui fait que ces gens-là nous détestent et à travers nous, c'est l'attaque qu'ils veulent faire savoir au grand public. On déteste la France, on déteste l'État français, on s'en prend à sa police.
La piste terroriste est envisagée, mais le parquet national antiterroriste, pour l'instant, reste observateur de cette affaire, ne s'en est pas encore saisi officiellement.
Oui, mais vous savez, bon, c'est la police judiciaire de Nice qui traite l'affaire. Le parquet antiterroriste supervise et regarde ce qui se passe. L'individu n'a pas pu être auditionné parce qu'il est gravement blessé. C'est pour le moment les témoignages des policiers. On verra ce que ça donne. Ce qui compte, c'est que la justice passe. Vous savez que le parquet antiterroriste ou le parquet de Nice classique suivent cette affaire. On a affaire à une tentative d'homicide sur fonctionnaire de police. La peine maximale est encourue, donc on verra bien ce qu'il adviendra.
Vous l'avez dit plus globalement, les policiers, la police est de plus en plus la cible d'attaques spécifiques. Hier encore, des tirs de mortier visés contre des forces de l'ordre à Argenteuil, dans le Val-d'Oise.
Oui, pour des motifs dont on entend dire, parce que j'avais aussi été saisi la veille, que ce serait en représailles d'interpellation. Mais si vous savez, le motif importe peu. Ce qui m'inquiète, moi, en tant que policier, c'est que on est sur le sujet des attaques contre les policiers. Qu'elles aient des revendications religieuses, politiques...
Ou de représailles,
au fond, elles ont toutes le même fondement. C'est le refus de l'État, c'est le refus de la loi, c'est le refus de l'autorité, c'est le refus des règles. Qu'on attaque un policier parce qu'on invoque son Dieu, ou qu'on attaque un policier parce que son cousin ou son petit camarade s'est fait attraper la veille, tout ça est totalement anormal. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des attaques qui se répètent, qui sont de plus en plus graves, et qui visent non pas seulement à symboliquement, à, je dirais, jouer avec la police, c'est bien plus grave que ça. Il y a des volontés d'atteindre l'intégrité de policiers et de mettre fin à leur jour. Et on a vu aussi des affaires récentes où ça se passe en dehors du service, ce qui est encore plus grave aujourd'hui. Le grand public, c'est peut-être la seule bonne nouvelle dans cette affaire au pluriel qui se déroule sous nos yeux, c'est qu'être policier aujourd'hui dans une ligne de transport en commun, c'est être en soi une cible avec des gens qui détestent la police. Et il va falloir traiter ce problème de société qui est un problème de violence qui se répand et qui est un problème inquiétant parce que les solutions ne sont pas toutes des solutions de court terme.
Quelle serait la solution à court terme avant d'envisager les solutions à long terme, puisqu'il s'agit potentiellement de sauver des vies?
Dans les affaires criminelles, comme l'attaque de ce matin, il y a peu de doute, la justice passera et il y aura des peines très lourdes. Moi, je suis beaucoup plus inquiet sur les réactions, on va dire, de violence urbaine, ces phénomènes qu'on subit depuis 40 ans, hein, parce qu'ils ne sont pas d'aujourd'hui, où on se rend compte que finalement, la police en subit de plus en plus. Elle est aujourd'hui attaquée avec des armes, qui sont des armes par destination, qui sont extrêmement dangereuses, des mortiers, mais parfois d'autres types de projectiles, parfois des armes à feu. Et on se rend compte que sur ces phénomènes de masse, on a à la fois un angle mort juridique, on a une difficulté à faire appliquer la loi, une difficulté à faire respecter l'ordre dans ces quartiers-là. Et quand bien même on arrive à en interpeller, on a des vides juridiques qui sont de l'ordre de le mineur délinquant et la commission d'actes en groupe, là où aujourd'hui la responsabilité pénale est individuelle. Et ces sujets-là de société, qui ont été trop souvent ceux qu'on a laissés à la police, font face, je dirais, à une problématique qui est comment on jugule tout cela, en sachant très bien qu'on ne va pas le régler en 3 jours, en 6 jours, dans une campagne présidentielle, mais qu'il va falloir s'y attaquer maintenant, parce que les mises en route d'aujourd'hui vont produire des effets peut-être au-delà d'une génération, mais il faut s'y atteler dès maintenant.
David Lebars, autre phénomène inquiétant et très pesant, ne serait-ce que psychologiquement, les tags menaçant les policiers qui fleurissent de plus en plus au bas de certaines barres d'immeubles, si j'ose dire, morceau choisi.
Une trentaine de tags anti-police retrouvés dans le hall d'un immeuble. Le 15 avril dernier, des photos privées de fonctionnaires sont retrouvées dans un immeuble d'Épinay-sur-Seine. Mais aucun auteur n'a pu être interpellé. Plus récemment, ces tags anti-police affichés sur un point de deal dans l'Essonne. Des menaces citant les noms des fonctionnaires, ceux de leur famille et même leurs adresses. Là encore, aucun malfaiteur identifié.
Donc les policiers, dans ces cas-là, sont de plus en plus nommément visés. En quelques clics, on trouve des noms et des adresses. Est-ce que vous pensez que la lutte anti-drogue, quand on est dans ces cas-là, dans ces périphéries-là, expliquerait de tels actes ?
En partie, mais pas seulement. Moi, j'étais chef de district en Seine-Saint-Denis dans des années encore récentes et j'ai notamment à Épinay fait déménager la famille. Je me souviens d'un chef de bac, un major de bac, parce qu'il était menacé individuellement. Son nom était sur tous les murs de la cité et sa photo pour le reconnaître. Donc tout ça n'est pas nouveau. Ce qu'il faut trouver, c'est les solutions pour...
Parce qu'on ne va pas faire déménager systématiquement tous les policiers.
C'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que ce soit la police qui se déplace et qu'on se retrouve finalement dans des quartiers où on ne peut... Parce que ne plus faire vivre nos policiers dans les secteurs difficiles, c'est déjà une problématique. Un policier qui habite à 100 km de son lieu de travail, c'est un problème. Si ensuite, sur le lieu de travail, cette difficulté d'exercice s'aggrave, on va se retrouver avec une police qui s'affaiblit, on ne peut pas accepter ça. Donc il faut impérativement qu'on trouve des solutions pour ceux qui se livrent à ce type de menaces. Et encore une fois...
Il y a des plaintes qui sont déposées, elles aboutissent ou pas?
Le problème, c'est d'identifier les auteurs qui se livrent à ce type de menaces et puis également de faire en sorte que collectivement, on se rende compte que le risque d'affaiblissement de la police nationale, c'est pas seulement la police qui va le subir, c'est la population. Les gens de ces quartiers, on n'en parle jamais suffisamment, ils sont les premiers à demander de la sécurité. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des quartiers de non-droit. Il y a du non-droit par une minorité d'auteurs, et face au non-droit, il y a la police nationale qui rentre encore. Si on en arrivait à une situation où la police nationale ne peut plus exercer sereinement son métier, c'est tous les habitants et tous ceux qui essayent de vivre correctement qui vont en subir les conséquences. Donc c'est un sujet de société, ce n'est pas qu'un sujet de police contre des délinquants.
Il y a une bande qui se dit groupe de rappeurs qui se fait appeler les Dalton à Lyon. Leur but, visiblement, c'est d'abord de faire parler d'eux. Et pour ça, ils vont toujours plus loin dans les provocations. D'abord, les provocations envers la population, mais il y a aussi les provocations envers la police, les forces de l'ordre. Chacun de leurs faits d'armes est mis en scène, diffusé sur les réseaux sociaux. Narguer la police, c'est devenu quoi ? C'est devenu un sport, voire un jeu pour eux ?
Narguer la police, narguer la justice et narguer l'ensemble de la société française. Ces gens-là circulent sur des véhicules la plupart du temps volés, non homologués. Ils mettent en danger la vie des citoyens. Ils sont interpellés par la police qui essaye de faire tant bien que mal son travail avec des sujets très difficiles. Le rodéo, je vous le reconnais volontiers, c'est un sujet sur lequel parfois on a des instructions de ne pas poursuivre si la poursuite risque de mettre en péril l'intégrité physique des auteurs. On pourrait regarder ce que font les Anglais. Les Anglais, ils assument le risque. Hein. Ils ont une loi. Ça leur permet de pousser les auteurs de rodéo. Ils les mettent par terre, ils interpellent. Puis s'il est blessé, il en assume les conséquences. Est-ce que la société française est prête à ça ? C'est un vrai sujet. Deuxième point, c'est le sujet de la réponse pénale. Encore une fois, on sait très bien que parmi eux, récemment, un d'eux a été déféré, a pris 8 mois avec sursis et 100 euros d'amende. Moi, j'entends en tant que policier que des citoyens qui prennent 135 euros d'amende pour le masque pendant le Covid ne comprennent pas qu'un individu en jaune et noir, et je ne dirai pas leur nom parce que leur premier rêve, finalement, c'est d'avoir cette médiatisation qu'ils sont en train d'obtenir. Il a pris 100 euros d'amende et 8 mois avec sursis. Alors, il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison pour des rodéos, mais il s'agit de se rendre compte que ces provocations-là, ça va au-delà du délit même qui est commis, ça va déstabiliser l'édifice police-justice, voire le ridiculiser. Quand on escalade une enceinte d'une maison d'arrêt, qu'on va passer un colis, qu'on ressort et qu'on fait ça librement, c'est une humiliation sur les services de justice et de police. Il faut une réponse pénale.
Merci David Lebar d'être venu ce soir. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, c'est l'histoire d'un franco-japonais interpellé cet été par les services secrets. Il prévoyait de partir faire le djihad. Son profil est pour le moins atypique.
C'est une affaire qui surprend la Direction générale de la sécurité intérieure française, nos services de lutte antiterroriste. Un cas unique dans les annales, l'histoire d'un adolescent qu'on appellera Y. Né d'un père japonais et d'une mère française, il est interpellé le 12 juillet et mis en examen dans la foulée pour association de malfaiteurs dans une tentative terroriste. À seulement 17 ans, cet étudiant surdoué a obtenu son bac avec 2 ans d'avance et vient d'achever sa prépa HEC dans l'un des lycées les plus prestigieux. Il s'est converti à l'islam à 13 ans. Il est en guerre avec son père qui ne supporte pas sa conversion et déteste l'islam. Ce jeune homme harcelé à l'école, rejette la culture nippone de son père. Ronan Folgoas, qui a révélé cette enquête avec Jérémy Famelé dans Le Parisien, nous raconte le chemin vers la radicalisation du jeune homme.
Tout commence en fait par des cours particuliers de maths physique qu'il a avec un professeur qui le sensibilise à la culture arabe. Et il va apprendre la langue arabe dans un premier temps. Il va aussi se rapprocher de la mosquée de Paris. Il va aller prier. Il va développer comme ça une formation théologique assez consistante. Le problème, c'est qu'il va faire ensuite des mauvaises rencontres, de très mauvaises rencontres sur des réseaux sociaux, sur des groupes djihadistes. Qui vont ensuite le pousser vers une forme de radicalisation.
Il entre dans le viseur des services de lutte antiterroriste de la DGSI dans le cadre d'une autre enquête. Quand il se rapproche d'une jeune femme, Sarah, sans jamais la rencontrer, il va tomber amoureux d'elle et lui proposer de se marier. Cette jeune femme s'appelle en fait Leïla. Elle lui demande de l'aide pour trouver un fusil d'assaut. Il refuse. Leïla B habite Béziers. Elle a 18 ans. Elle est interpellée par la police le 4 avril. Elle projetait, dans les heures suivantes, de s'attaquer à l'église de sa ville.
Les enquêteurs des services de renseignement vont découvrir ce jeune homme qui a échangé avec Leïla des centaines de messages dans les jours qui précèdent ce projet d'attentat dans l'église de Béziers. Ils vont se rendre compte que ce jeune homme franco-japonais nourrit un projet de départ, semble-t-il, en Syrie pour aller combattre les troupes de Bachar el-Assad au sein de groupes terroristes.
Deux choses ont profondément surpris les enquêteurs dans cette affaire. Tout d'abord, le profil de ce jeune homme. Il était appelé à intégrer l'une des plus grandes écoles de commerce à Paris. Son avenir était tout tracé. Le deuxième élément, c'est son envie de rejoindre Al-Qaïda à l'été 2021 et d'aller combattre en Syrie contre Bachar al-Assad. Face aux enquêteurs, il découvre qu'il voulait gérer les finances d'Al-Qaïda et gagner de l'argent pour l'organisation terroriste. Y n'a donc pas fait sa rentrée dans la célèbre école de commerce qui l'attendait. À la rentrée, il a été écroué pour tentative d'entreprise terroriste. David Lebars, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est le profil de ce jeune radicalisé et on découvre que les profils sont de plus en plus différents de ces radicalisés qui veulent aller faire le djihad.
Oui, alors malheureusement, je ne veux pas être celui qui aurait l'air de ne pas être étonné parce que c'est une affaire extrêmement grave et elle est malgré tout surprenante sur le profil. Mais j'en ai connu d'autres et ça a éveillé quelques souvenirs. Je pense notamment à un policier qui j'ai longtemps travaillé dans les trois enfants, figurez-vous, c'était radicalisé quasiment à l'insu du père, jusqu'à ce que, je ne pourrais pas aller plus loin, mais ce que le quasi-irréparable soit commis, puisqu'ils sont partis sur un territoire de guerre. Donc des histoires comme ça nous disent quoi ? Elles nous disent qu'il n'y a pas de profil type. C'est exactement comme les attaques. Il ne s'agit pas d'imaginer que le profil de celui qui va être radicalisé, qui va passer à l'acte, correspond à un schéma descriptif. Sinon, ce serait beaucoup trop simple pour les services de renseignement. On serait déjà capable de maîtriser toute la menace. Ça nous rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant et que des signaux faibles sont parfois, entre les mains de gens dont le devoir, quand c'est possible, c'est de faire remonter pour qu'on puisse après les donner aux services de renseignement. Tout ça est très compliqué.
Les signaux faibles, c'est-à-dire c'est la famille la plus proche,
C'est très compliqué parce qu'il y a un manque de culture. Moi, je pense souvent, dans la police nationale, des gens qui se sont radicalisés. Alors, si vous voulez, ce n'est pas parce que quelqu'un pratique sa religion qu'on a un signal faible. Il y a des changements de comportement qui peuvent alerter. Hein. Quand quelqu'un décide de ne plus dire bonjour à ses collègues, change d'apparence, change de mode de vie, les signaux faibles, ils doivent être au pluriel. Mais tout ça est très compliqué. Mais dans le doute, peut-être penser à signaler ou à donner l'information à celui qui pourra la passer au bon niveau pour qu'il y ait éventuellement une levée de doute. Mais ne pas s'imaginer que des changements comme ça qui peuvent intervenir, souvent il y a un rejet de quelque chose. C'est un peu comme l'appartenance à une secte, tout ne se voit pas. Tout ne se détecte pas, mais s'il y a des signaux à donner, il faut y penser, parce que c'est un devoir de vigilance collective.
Merci Mohamed, merci à tout à l'heure pour la Story Média. Émilie, c'est une personnalité bien connue et aimée des Français, des téléspectateurs qui se mobilisent contre les violences faites aux enfants.
Oui, tout est parti d'un témoignage dans un livre, « Je suis née à 17 ans », un récit très intime dans lequel l'auteur raconte son enfance de petit garçon battu par son père, témoignage qui provoque une onde de choc à l'époque, car ce petit garçon, inconnu, est devenu l'un des animateurs les plus populaires de la télévision française, c'est Thierry Beccaro. Et la première fois qu'il parle de son livre dans une émission, c'était dans C'est à vous, il y a 3 ans.
Il arrive, je l'embrasse, puis comme il est 21h30, je vais me coucher, j'ai cours le lendemain et tout, bon, je me couche, et j'entends encore un bruit de cavalcade quoi, dans l'appartement, je sens... Donc je me lève, j'ai vu qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, la porte du salon s'ouvre et je vois, voilà, mon père avec un fusil et ma mère à côté. Et là, je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais ? Et là, je suis mort, quoi.
On découvre donc derrière le sourire, derrière la bonne humeur de l'animateur de Motus, un petit garçon meurtri. Alors on peut voir à ce moment-là les choses dans les deux sens. Un adulte à qui tout réussit en apparence peut cacher un passé bien plus sombre. Ou alors un enfant qui a subi des violences. Et en France, la parle à beaucoup, puisqu'un enfant meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents, peut devenir un adulte accompli. C'est pour montrer cela en tout cas que Mélissa Theriault fait appel à Thierry Beccaro pour témoigner à nouveau dans son documentaire « Bouche cousue » diffusé sur France 2.
Un petit enfant, ça n'a pas la structure psychologique pour comprendre ce qui se passe. Ça ne peut pas. Ça prend des coups, ça se recroqueville. Et puis ça se recroqueville pour la vie. C'est ça le vrai drame. Et puis après, mon père, il montait dans la chambre, il m'embrassait, il me disait qu'il m'aimait. C'était un cataclysme dans ma tête.
Son histoire, Thierry Beccaro n'a plus cessé de la raconter aux médias, aux associations, aux responsables politiques. Adrien Taquet notamment, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, il la racontera encore car depuis son désir d'être utile n'a plus de limite. Il est d'ailleurs devenu ambassadeur de l'UNICEF, un nouveau rôle qui l'a emmené à la rencontre d'enfants en Côte d'Ivoire.
J'ai évidemment une tendresse infinie pour les enfants en souffrance. Donc c'est vraiment la mission première de l'UNICEF.
c'est d'aider chaque enfant. Il faut qu'on entende la voix des enfants, il ne faut pas qu'on entende leurs cris.
Thierry Beccaro croyait sa part du travail accompli en racontant son enfance bousculée, mais il veut continuer à témoigner du chemin parcouru pour être aujourd'hui un adulte qui s'autorise à être heureux. C'est l'histoire de sa résilience. Il est ce soir notre invité.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Thierry.
Le petit Thierry vous souhaite une bonne soirée. Ah, quel bonheur de vous retrouver. J'ai l'impression d'être un cousin éloigné qui revient dans la famille.
Plus qu'un cousin éloigné, un cousin très proche.
Ah oui, un cousin proche, ouais, ouais, merci.
Un frère.
Merci, je viens de revoir ces images, ça me touche toujours infiniment. Non pas de me voir moi, évidemment, mais voilà, de revivre indirectement. Et puis ces images de l'UNICEF, ça pour moi, c'est une des belles surprises de ces dernières années, quoi. C'était magnifique.
Bah de ce rôle que vous avez endossé et que vous continuez à endosser en racontant dans ce deuxième livre votre résilience. C'est un mot qui désigne quoi? Le terme qui s'applique aux sciences physiques, c'est quoi exactement?
Alors ce mot, il est tellement employé. En ce moment, il est employé, si je puis dire, à toutes les sauces. Peut-être qu'on en parle en cuisine, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, climat et résilience. Les Français sont résilients pendant la pandémie. C'est très particulier, la résilience. Ce n'est pas un mot qu'on peut employer comme ça, à tort et à travers. Parce que moi, je n'ai pas décidé d'être résilient. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, à l'arrivée... finalement, je suis résilient. Non, j'ai fait tout ce chemin dont je parle, qui est au départ un chemin de ronce. Mais la résilience, ben, c'est tout ce que j'ai réussi à construire grâce à tous les autres, grâce à mon flair, comme m'a dit Boris Cyrulnik, pour arriver non pas sur un chemin de pétales de rose. Voilà la résilience, c'est continuer à vivre. C'est réussir à s'en sortir, mais en ayant toujours sur les épaules ce fameux sac à dos. Donc c'est pour ça que mon éditeur m'a gentiment proposé, parce que je ne savais pas trop quoi faire de ce qui m'était arrivé d'exceptionnel après la sortie de ce livre.
De ces milliers et milliers de témoignages, cet amour qui vous a été adressé.
Oui, vraiment. Je lui dis, qu'est-ce que je peux bien faire de tout ça? Et je m'étais dit, avec ce premier livre, ça va, j'ai fait ce qu'il fallait faire, quoi. Et souvent, je dis, c'est comme si là-haut, on m'avait dit « Ah non, c'est que le début, là, c'est pas terminé. » Alors moi, j'ai dit à Grégory Berthier, je lui ai dit « Moi, je veux bien raconter tout ça, si tu veux, mais je voudrais parler de ma résilience à moi, parce que des résiliences, il y en a des milliers. »
Sur comment, pas à pas, vous avez fait de cette fêlure une force quand même, parce qu'il en faut de la force pour pardonner à votre père. C'est ce que vous racontez, vous l'avez fait. Ouais. Vous lui avez pardonné.
Je lui ai pardonné, et dans ce livre, Ma résilience à moi, je raconte comment je me suis construit tout seul. Hein, c'est un joli mot, autodidacte, mais vraiment, je me suis construit tout seul. Et le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé, peut-être que maman regarde là ce soir, qu'il me demande pardon.
Ce qu'il n'a pas fait.
Ça, c'est mon grand regret. J'aurais bien aimé qu'ils me disent... J'ai deux, trois amis qui sont venus me voir après la sortie d'une vidéo que j'ai faite pour Brut, pour l'UNICEF. Quelqu'un qui travaille dans le métier, qui est venu me voir. Un père de famille qui m'a dit, Thierry, je voulais te remercier parce que, tu sais, moi, j'ai eu un peu la main leste et tout. Et quand j'ai vu ta vidéo, je suis allé voir mon fils, qui a 17 ans, 18 ans. Et je lui ai demandé pardon. Alors, comme il a 17, 18 ans, il a fait le malin, il a fait « Non, non, c'est pas bien grave, attends. »
Mais il lui a
demandé. Je lui ai dit « Mais tu n'imagines pas le bonheur que tu me fais, là. Ce que tu viens de faire, là, mais c'est exceptionnel. » Parce que, évidemment, qu'il a fait le fier à bras. Mais il l'a entendu, ça. Il l'a entendu. Et c'est ce que moi, j'essaye aujourd'hui de reproduire avec mes enfants, quoi. Si jamais je fais une erreur, si jamais je suis pas dans la bonne direction, voilà.
Alors, pardonner, c'est pas oublier, parce que ça ne part jamais. Toute votre vie, il a fallu vivre avec cette image-là, celle de votre père braquant un fusil sur votre mère. Il a fallu vous extraire de la pénombre dans laquelle, voilà, cette enfance-là et cette scène-là, vous avez plongé. Et il vous a fallu parfois des médicaments pour vous en sortir. C'est presque devenu une addiction. C'est l'une des voies de cette résilience.
Ça, c'est... Voilà, voilà. S'il faut encore un tout petit peu plus de courage que d'habitude, voilà, j'ai eu ce courage de dire voilà, voilà ce que ça peut entraîner, la maltraitance, les addictions, les accoutumances. Parce qu'à un moment donné, la tristesse, la mélancolie, la solitude vous donnent envie de vous évader, vous donnent envie de vous échapper. Moi, j'ai eu cette chance. Alors, c'est une chance incroyable parce que mon éducation a été tellement sévère que si jamais je m'étais fait choper en train de fumer je ne sais quoi ou consommer je ne sais quelle drogue, ça se serait très très mal passé. En revanche, il a fallu les médicaments pour tout à coup m'évader, pour calmer la spasmophilie qui envahissait mon corps et qui tétanisait mes bras, qui m'empêchait de vivre. Et puis j'ai réussi à faire tout ça devant les caméras, sur les scènes de théâtre.
À vous tenir droit. Vous racontez qu'il n'y a que sur une scène de théâtre que vous arrivez à vous redresser. Tout le reste du temps, vous avez toujours un rapport complexé, vous avancez courbé. Si je me tiens droit, on me verra trop.
Vous faites bien.
Pardon.
Et puis il y a tous ces complexes qu'on finit par avoir par rapport à son corps, par rapport. Moi, j'ai dit voilà, là, voilà, c'est bien qu'on en parle. Comme ça, je me tiens droit. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que je raconte dans ce livre, c'est que réussir à s'en sortir, c'est pas forcément tout à coup se mettre à faire des claquettes. Hein. Non. Moi, pendant ces 35 ans que j'ai passé à France Télévisions, où j'ai vraiment essayé de donner du bonheur aux gens et du sourire, il y a des soirs où je suis rentré chez moi, et peut-être encore aujourd'hui, où dans ma solitude, dans mon intimité, j'avais encore ces gouffres dans lesquels je tombais. Et c'est pour ça que vous trouverez dans le livre quelques extraits de mes carnets intimes que parfois même mes proches ne connaissent pas. Mais ce qui est intéressant dans ce que je raconte, dans ma résilience à moi, si elle peut rencontrer d'autres personnes, parce que moi j'ai cette chance d'être avec vous ce soir, de m'en être bien sorti. Voilà, c'est la seule chose que j'espère, c'est que celles et ceux qui vont lire ce livre se disent, comme ils l'ont fait pour le premier. Ah oui, oui, je connais ça. Ah mais oui, mais moi aussi, mais j'ai jamais osé en parler. Il faut peut-être de temps en temps quelqu'un d'un peu plus connu que les autres le fasse pour ouvrir la porte.
Voilà. Thierry Bicaro, la prévention contre la violence envers les enfants, ça commence par lutter contre la violence qu'on dit ordinaire, la fessée, les gifles. Une campagne télé est diffusée depuis quelques jours.
En forêt. Léo ! Léo !
Léo ? C'est très joli ce que t'as fait. Mais tu vois, le feutre, c'est très difficile à nettoyer sur la moquette et sur les murs. Regarde. Tu peux dessiner là-dessus ?
On entend souvent dire, ça va, une fessée, ça n'a jamais tué personne.
C'est la première fois que je le vois. Hein.
C'est intelligent, c'est une bonne manière de montrer.
Je savais qu'il existait, je viens de le voir là à l'instant. Et c'est vrai que ça me remue, parce que ça me parle tellement. Je l'entends encore, cette phrase. Hein. Oh ben une bonne fessée, ça n'a jamais tué personne. Mais il faut bien se dire que ça peut tuer, ça tue. Des gifles, ça tue, ça humilie, ça humilie.
Vous dites que ce sont des petites morts, une succession de
voilà,
petites morts.
Voilà, je le dis dans le livre, mais on peut en mourir de ces petites gifles, de ces petites fessées, de ces petites phrases maladroites, de cette fameuse violence psychologique ordinaire. On peut en mourir de tout ça. Il est formidable, hein, ce clip, hein, il me bouleverse, c'est exactement ça. Hein, Alors moi, la différence, c'est que moi, je ne savais pas quand ça allait arriver. Donc, ça avait, il y avait un côté épée de Damoclès.
Ça pouvait mais arriver à tout moment.
Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que moi, ce que je raconte, ça remonte aux années 60. Hein. Ça remonte aux années 60. Et qu'aujourd'hui, là, en 2021, on fait encore des clips pour expliquer que, vous imaginez, pendant la pandémie, qu'il y a une recrudescence hein, de violences intrafamiliales et tout. C'est d'ailleurs pour ça que je le raconte toujours avec plaisir. Pendant la pandémie, je me suis fait un... Je vais tenter, je vais oser, je vais appeler le 119. Le 119, c'est ce numéro que les enfants peuvent appeler pour confier leur chagrin, leur malheur, ou des petits copains, ou des voisins qui vont pas dénoncer, mais qui vont alerter. J'emploie ce mot, il est important. Et j'ai appelé le 119 pendant une semaine. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était un peu surpris sur le moment. Oui, bonjour, c'est Thierry Beccaro à l'appareil. Il y a un petit... Est-ce que c'est une vanne ou ce que... Non. Ben voilà, moi, je suis ambassadeur de l'UNICEF et tout. Je voulais simplement vous dire merci pour ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression de prendre un combiné des années 50. Mais bon...
Mais c'était important qu'il soit là, oui, parce qu'on sait qu'il y a une...
Oh là là, oui, c'est tellement important, vraiment. Vraiment.
Thierry, vous allez porter votre histoire au théâtre, sans aucun rapport. Il y a une pièce que vous répétez en ce moment qui s'appelle « Sans rancune », mais faut pas, le titre pourrait être
oublié.
Ça n'a rien à voir, c'est le CAC 40 qui se passe pas bien pour tout le monde.
Oui, voilà.
C'est plutôt divertissant. Mais l'adaptation théâtrale de votre livre, « Je suis né à 17 ans », vous espérez la monter cet été à Avignon ?
J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien.
Vous êtes en train de travailler l'adaptation ?
Nous l'avons réalisée avec Emmanuel Robert Espitalier.
Oui.
C'est un très, très beau texte.
Vous avez le titre déjà ?
Oui, j'ai le titre. J'ai le titre et quand il m'a proposé ce titre...
On peut le savoir ?
L'amour à la menthe.
Parce que les pastilles de menthe que vous évoquez
quand
dans le bouquin...
Quand mon père rentrait le soir et qu'il avait un petit peu abusé de l'alcool, pour masquer l'odeur de l'alcool, il prenait une pastille de menthe. Mmh. Et pour moi, c'était l'aveu de ce qui allait peut-être se passer. Et quand Emmanuel m'a dit... L'amour à la menthe, c'était le... Il avait synthétisé...
Parce que vous l'aimiez d'un amour inconditionnel, ce père, qui était à la fois votre bourreau.
Bah, Tout ça, c'est le paradoxe. Il suffit d'une petite phrase, hein, parfois. Il aurait suffi de... Je te demande pardon. Tu sais, ça n'a pas été facile tous les jours et tout. Mais bon, voilà, c'est fait, Il est avec moi, j'embrasse ma mère, et j'embrasse aussi toute la famille. C'est peut-être souvent pour la famille que c'est le plus compliqué.
Votre livre se termine par des remerciements à toutes celles et ceux qui m'ont permis d'avancer, de grandir, de comprendre et de pardonner. Merci aussi à celles et ceux qui m'ont considéré comme un soleil, comme je me percevais, comme un nuage. Vous êtes un sacré soleil, Thierry Beccaro. Ma résilience à moi, c'est chez Plomb. Merci d'être venu. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire ce soir, cher Mathieu.
Les piétons imprudents. Selon une étude, on traverse au rouge, au téléphone, hors des passages piétons, alors que les dangers se sont multipliés en ville. Bousculade géante, 8 morts et des centaines de blessés lors d'un festival de musique aux États-Unis. Le rappeur qui organisait l'événement est visé par la justice. Et puis Thomas Pesquet rentre sur Terre, départ de la capsule dans quelques minutes, l'occasion d'un dernier tour de la Station Spatiale Internationale avec lui.
Les piétons sont des chauffards comme les autres.
Oui, c'est ce que nous apprend une étude commandée par un assureur et réalisé dans 5 grandes villes françaises sur des passages réputés dangereux. Je vais vous poser les mêmes questions que l'étude autour de la table. Patrick, est-ce que vous traversez alors que le petit bonhomme est au rouge ?
Non, j'essaie d'éviter.
Menteur !
Mais je ferai le commentaire sur parce que ça m'a particulièrement agacé cette
Est-ce que vous traversez en dehors des passages piétons ? Est-ce que vous regardez au téléphone en traversant ? Vous avez les résultats à l'écran. Il y a aussi les écouteurs dans les oreilles. Iban Raïs et Anaïs Recouli ont bravé la circulation aujourd'hui pour aller à la rencontre de ces Parisiens qui sont toujours de très bonne foi.
Que les trois quarts du temps, on se manque de se faire écraser par les vélos et les trottinettes.
Il n'y a pas une lisibilité excessive non plus, je trouve, sur... quelle voie est accordée à qui ?
Les trottinettes, c'est pire, oui, parce que les trottinettes, en plus, ils traînent partout, hein, c'est un danger.
Et peur pour nous, et peur pour eux. Et aucun centre de gravité, s'ils tombent, c'est hyper dangereux pour eux aussi. Il faut regarder tout le temps. on peut plus se baser sur les petits bonhommes verts.
Ouais, il faut regarder des deux côtés. Partout.
Pourtant, vous traversez avec votre casque, je vous ai vu.
Ouais, mais je fais toujours attention que ce soit bien vert, tu vois. C'est un truc que j'ai appris en province.
Je vais pas enlever mes écouteurs, je vais m'arrêter de vivre pour traverser.
Pour moi, c'est la jungle urbaine, vraiment, et les gens s'insultent.
Ça fait 2 ans que je suis à Paris, j'ai dû manquer de me faire éclater par des vélos 3-4 fois, donc voilà.
Il faut bien le reconnaître, les voitures ne sont plus les seules prédatrices des piétons. Aujourd'hui, il faut cohabiter avec des vélos, il faut cohabiter avec des trottinettes. Le danger arrive de droite comme de gauche. Vous avez entendu le mot jungle. Sur ce point, nous avons aussi interrogé l'adjoint à la mairie de Paris en charge des mobilités.
Personne n'est exempte de parfois transgresser certaines règles. La question, c'est pas d'avoir des gens parfaits dans la rue. Moi, je ne suis pas parfait, personne ne l'est. La question, c'est la cohabitation avec une règle simple. Il faut protéger toujours le plus vulnérable dans l'espace public. Le plus vulnérable, c'est le piéton. Tout le monde l'est à un moment donné. Je le suis là, vous l'êtes. Tout à l'heure, je serai cycliste. Eh bien, la règle, c'est toujours de préserver celles et ceux qui sont les plus vulnérables.
Nous vous avons aussi retrouvé une campagne de 2017 de la sécurité routière, assez parlante à des piétons qui traversent au rouge. On envoie un son de crissement de pneus qui fait très peur pour les effrayer et les prendre en photo. Regardez. La sécurité routière avait appelé ça le simulateur d'impact. J'aime bien le nom. L'an passé, rappelons quand même que 391 piétons sont morts sur la route, 15% de la mortalité routière. David Lebars, j'en profite, on a un commissaire de police avec nous autour de la table. Il faut les verbaliser, les piétons ?
Là, c'est le policier qui va vous répondre. Si on devait nous demander aujourd'hui, alors qu'on vient de parler des violences, de s'en prendre aux piétons et de les verbaliser, même s'il faut faire respecter les règles, on se dirait qu'on commence peut-être par le bas du spectre et qu'il y a plus à faire. Donc, voilà,
C'est un vrai bout de camp là en ce moment pour traverser. Il faut éviter les vélos, faire gaffe aux trottinettes, surveiller le petit bonhomme rouge. Une fois qu'on est de l'autre côté, ça pourrait ressembler un petit peu à la résilience.
Oui, il y a des artères dans Paris où on doit tourner la tête 3 ou 4 fois pour passer la piste cyclable, puis la voie de bus, absolument, puis la voie des voitures, quand il n'y a pas des trottinettes sur les trottoirs. Donc David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris, a raison quand il dit c'est le piéton le plus vulnérable. Et il me semble avoir appris dans le code de la route que c'était lui qui avait priorité à tout point de vue. Mais il n'est pas étranger complètement à la jungle qui a envahi Paris et les principales artères parisiennes. Donc je ne comprends pas bien le sens de cette enquête. Pourquoi cette compagnie d'assurance a fait cette enquête? Si c'est pour culpabiliser les piétons, je pense qu'il y a d'autres priorités.
Et encore, ils n'ont pas démontré que les femmes à pied étaient plus dangereuses que les hommes à pied. Parce que j'attends, voilà, après les femmes au volant, j'attends les femmes à pied.
Je voudrais qu'on fasse le comptage. Mais toute une journée, on se met à un passage piéton, le petit bonhomme est vert, on traverse combien de vélos risquent et passent et s'en foutent des piétons.
C'est un grand danger.
Cette guerre entre les usagers de la route à Paris.
Non, c'est pas une guerre. Tu ne peux pas dire aux piétons, faites attention, le bonhomme est vert et les mecs passent. Et les personnes âgées. Putain.
Donc le commissaire Lescure, il veut verbaliser.
Je voudrais juste préciser que David Béliard et Mathieu Béliard, aucun lien. Oui. J'y peux rien à cette affaire.
En attendant, c'est toi qui prends.
Regarde le regard.
La fin des travaux de la conférence des évêques de France.
Une fin très attendue, scrutée après le choc du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église. Hier, c'est au son du glas qu'évêques, religieux, prêtres et laïcs ont demandé pardon à Dieu lors d'une prière de pénitence à genoux. Je vous rappelle que le rapport Sauvé nous apprenait le chiffre de 330 000 victimes de crimes sexuels à l'Église depuis les années 50. Alors aujourd'hui, c'était la clôture d'une semaine de travaux et on attendait surtout les évêques sur la question de la réparation, de l'indemnisation des victimes. La conférence des évêques de France annonce la création d'une instance nationale indépendante pour instruire les demandes des victimes. Ce matin, on a aussi appris que l'Église financerait un fonds spécifique sans passer par le denier du culte.
Les évêques de France ont décidé donc, d'abonder ce fonds autant qu'il est nécessaire en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la conférence des évêques ou des diocèses. Nous avons aussi décidé, s'il le fallait, de souscrire un emprunt pour pouvoir honorer nos obligations.
Un bon début pour les associations de victimes. Elles ont salué cette annonce, mais demandent toutefois à être associées à cette instance.
À la fois, j'ai envie de dire, il y a vraiment de bonnes surprises. Très honnêtement, je n'imaginais pas que ça serait aussi avancé comme processus, puisque rien ne nous donnait de... Nous n'avions aucun signe extérieur pour nous permettre d'imaginer que le travail avait avancé dans le concret. Monsieur Moulin-Beaufort a parlé d'associer les gens. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire associer. C'est associer pour écouter, pour acquiescer, ou c'est associé pour co-élaborer, pour co-décider et co-mettre en œuvre. C'est vraiment ce point-là sur lequel je suis la plus frileuse.
8 morts et des centaines de blessés lors d'un festival de musique américain.
Astroworld, c'est le nom de ce festival. C'était vendredi soir, la 3e édition de ce festival du rappeur Travis Scott dans sa ville natale, à Houston, au Texas. Un festival très attendu. Vous voyez déjà l'excitation à l'entrée sur le site, avant même le début de l'événement. Ensuite, la soirée a tourné au drame, littéralement. 50 000 personnes étaient présentes quand un mouvement de foule a causé la mort de 8 spectateurs, donc plus de 300 blessés, des jeunes essentiellement, parfois mineurs. Écoutez ces témoignages de spectateurs du concert.
Everybody was focused on the show and just having a good time that they didn't realize what was happening.
I was on the floor like screaming for help and trying to reach for people's hands so they could see me and no one would see me.
This time at Astroworld it was totally different. It was just like a concert from hell.
It was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainting. And the people were trying the medics were trying to give them CPR.
I was literally praying and I was like, please get me out of here. Like, this is not how I want to go, please.
We lost our brother. We're grieving for all the families that lost their loved ones. He died saving his fiance.
Après ce drame, le rappeur Travis Scott a publié un communiqué. Il a également pris la parole sur Instagram.
I want to send out prayers to the ones that was lost last night. My fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, you know, help them get the help they need, you know? I could just never imagine the severity of the situation.
Sauf que le problème, en ce qui concerne Travis Scott, c'est que ce n'est pas la première fois que cela dégénère, et le rappeur n'est pas connu pour calmer la foule. Bien au contraire, vendredi soir, c'est la foule qui essayait de le calmer. On entendait les fans crier qu'il faut stopper le show. Il y a des personnes qui sont en train d'être réanimées alors que les rappeurs sur scène continuent leur concert. Regardez ces archives à présent, ce sont d'anciens concerts pour vous montrer que Travis Scott n'est pas toujours responsable avec la foule. Cet homme que vous voyez sauter s'est brisé les deux jambes, il est paralysé aujourd'hui. Les concerts de Travis Scott se terminent régulièrement par des fans à l'hôpital. Un des spectateurs présents au festival Astroworld vendredi soir a déjà annoncé porter plainte contre Travis Scott et contre le rappeur canadien Drake, qui était sur scène aussi au moment des faits. Le plaignant, un homme de 23 ans qui accuse les deux rappeurs d'avoir semé la pagaille et d'avoir poursuivi le concert alors que les mouvements de foule étaient hors de contrôle.
C'est une histoire absolument sidérante. Un personnage de Un rue Sésame étant une des gardiennes.
Oui, alors vous vous souvenez sans doute de cette émission éducative américaine, c'est Marionnette qui précédait L'île aux enfants chez nous, avant que Casimir ne s'impose à la télé française. Eh bien Big Bird, grosse peluche d'oiseau jaune, Big Bird est à la une du Guardian ce matin pour son clash avec Ted Cruz, le sénateur américain. En cause, cette vidéo.
Hi Rosita, did it hurt when you got the vaccine shot and were you scared?
I was a little scared, Big Bird. But my mommy and my papi helped me, and little Gatito helped me too. And you know what? Before I knew it, the shot was over, and I had this cool vaccine, you know, Band-Aid on my arm. Mm-hmm.
Aux États-Unis, le sénateur républicain Ted Cruz s'est indigné. Il parle de propagande gouvernementale auprès d'enfants de 5 ans. À droite, aux USA, on parle de lavage de cerveau chez les plus jeunes.
You got the right to make your own decision about your own health care, to talk to your own doctor, and do what you damn well think is right. And these petty tyrants have no business trying to force people to comply.
Le fond de l'affaire, c'est que les États-Unis, vous le savez, ont ouvert la vaccination pour les 5-11 ans, ce qui fait débat, bien sûr, là-bas. Et clairement, la communication politique nous surprend toujours de plus en plus, puisque c'est en soutenant Big Bird, vous le voyez, que Joe Biden répond aux Républicains.
Se faire vacciner, le meilleur moyen.
C'est POTUS, hein, ne confondez pas, c'est bien POTUS. Oui, c'est pas, pas d'erreur, je n'y suis pour rien.
Se faire vacciner, c'est aussi un bon moyen d'aller venir vous applaudir à Lyon, au Théâtre de la Tête d'Or, pour Sans Rancune. C'est une excellente pièce avec Thierry Beccaro.
Avec Marie Parouti, avec Julien Cafaro. J'y suis jusqu'au 12 janvier. Et c'est une aventure incroyable, puisque c'est une pièce que j'ai jouée il y a 30 ans. Avec Roland Giraud, et qu'on m'a reproposé là, il y a quelques semaines. Voilà, la boucle est bouclée.
Oui, la boucle est bouclée, et vous reviendrez dans C'est à vous de nous en parler.
Avec plaisir.
C'est une grande histoire en bleu, entamée il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, quand même bien de dire, Émilie.
Ça fait bizarre d'entendre son nom comme ça, prononcé par Laurent Blanc. Il a fallu un laps de temps... personne à côté de moi a crié « Hourra » avant moi. Ce qu'il m'a fallu quand même une ou deux secondes pour réaliser. Et voilà, ça restera une date à jamais gravée dans ma tête. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas.
Bonsoir Olivier Giraud.
Bonsoir.
On est super heureux de vous accueillir ce soir. Champion du monde 2018, vice-champion d'Europe 2016. Deuxième meilleur buteur de tous les temps en équipe de France, devant Michel Platini et Zidane. Hey, 46 buts, 110 sélections, vous faites partie du club très fermé des centenaires, c'est comme ça qu'on les appelle, les Bleus qui ont plus de 100 sélections. Vous imaginez un tel parcours là, quand vous voyez ces images où on vous annonçait votre première sélection, c'était pour le 11 novembre 2011.
Ouais, première sélection, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts comme on dit,
ouais.
Il y a une barbe qui a poussé aussi. Ça fait beaucoup d'émotions quand je me revois aussi jeune et insouciant, mais je mesure aujourd'hui le chemin parcouru et c'est vrai que j'en suis fier et j'en parle dans mon livre.
Toujours y croire, c'est le titre de votre autobiographie, c'est votre leitmotiv aussi. Meilleur buteur en activité, et pourtant vous n'êtes pas à Clairefontaine en ce moment, alors que dans 5 jours, il y a ce match décisif face au Kazakhstan, phase éliminatoire pour le Mondial 2022. Didier Deschamps a parlé de vous cet après-midi en conférence de presse, on l'écoute.
Olivier Giroud a fait plusieurs sorties médiatiques pour parler de sa situation en sélection, ses non-sélections plutôt. Est-ce qu'il se tire une balle dans le pied en parlant comme ça de la sélection ?
Chaque joueur est libre de s'exprimer, de donner son ressenti, son avis par rapport à sa propre situation. Moi, le plus important pour moi, c'est les discussions que j'ai en direct avec les joueurs. Donc voilà. Et Olivier sait.
Olivier sait, mais nous, on ne sait pas ce que Olivier sait. Qu'est-ce que vous savez qu'on
ne
sait pas ?
Le contenu de la conversation.
Restez secrète.
Je suis juste pas surpris de la question du journaliste.
Qui rappelait que vous aviez regretté de ne pas avoir été averti du retour de Benzema.
Oui, mais voilà, j'essaye simplement d'être honnête, parler avec la plus grande franchise. Et je ne pense pas me tirer une balle dans le pied, je dis juste ce que je ressens.
Eh bien, vous allez continuer à répondre à Didier Deschamps et nous dire que vous y croyez à votre histoire en équipe de France. Vous serez de retour bientôt chez les Bleus, on le souhaite en tout cas. Merci Thierry Beccaro, ma résilience à moi c'est chez Plomb. Merci David Lebars, merci Mathieu. A tout de suite avec Olivier Giroud et Gad Elmaleh qui sera également notre invité. Oh, la classe.